aurais fait regarder l'heure. Moi, je trouve que c'est une bénédiction de discuter avec les témoins de Jéhovah, en tout cas. Pas forcément pour ce qu'ils peuvent nous apporter directement, c'est sûr, mais on en a qui sont venus à, qui viennent à la maison régulièrement, en fait, pour discuter. Et ça nous remet, nous, en question, et ça nous oblige à mieux regarder ce qu'on croit. Et très, très simplement, hein, c'est un truc de base pourtant, mais les témoins de Jéhovah pensent pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Ils ne croient pas en la Trinité. Et en fait, je me dis, bah, bien sûr que Jésus, il est Dieu. Et en même temps, je ne savais pas de verset qui venait directement à la tête. Et je me suis dit, bah mince, oh, il doit y avoir Jean 1, quand on dit la parole était au commencement, tout ça. Et bon, quelques petits trucs par-ci, par-là. Et de discuter avec eux, je me suis dit, oh là, il faut que je regarde ça, parce qu'en fait, je ne suis pas, au point moi-même sur ces choses-là. Et en regardant, il y a énormément de preuves partout dans la Bible que Jésus est Dieu. Mais il faut fouiller, il faut étudier. Et c'est en ça que c'est intéressant de discuter avec eux, parce qu'ils sont, au point sur leur doctrine, et parfois plus au point que nous, malheureusement. Hein, il y a plein de sujets que j'aurais aimé discuter, mais là, je vais faire quelque chose peut-être d'un peu plus classique par rapport à d'habitude. Je vais parler de l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas pour vous ce que ça représente, l'Ancien Testament. Mais pour moi, l'Ancien Testament, ça a souvent été un peu quelque chose à part un peu dans la Bible, vous savez. Je lis le Nouveau parce que bah, c'est l'Évangile, c'est tout ce qui est important. Et j'ai toujours lu l'Ancien avec un peu l'idée dans ma tête que bah, c'est un peu moins important. C'est pas vraiment l'Évangile, c'est plus la culture, c'est le passif. Ça explique un peu le Nouveau, mais voilà quoi. Et en fait, depuis quelque temps, le Seigneur me travaille pour montrer qu'il a une seule parole. Il ne faut pas dissocier complètement comme ça le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mêlées, qui s'expliquent les unes les autres. Et si vous relisez le Nouveau, vous voyez qu'il y a énormément de citations de l'Ancien Testament. Ça n'arrête pas. Et si vous lisez l'Ancien, je ne vais pas dire qu'il y a des citations du Nouveau. Ce n'est pas le cas. Mais en lisant Ésaïe, on a l'impression de lire l'Évangile et de lire des choses qui sont écrites plusieurs milliers d'années après, et qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment complètement imbriqué, et j'ai pris juste un chapitre comme ça. En fait, j'en ai cinq, mais j'ai pas l'idée de faire les cinq aujourd'hui. J'ai pris juste Deutéronome chapitre 6, et peut-être pour souligner les versets qui sont parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un chapitre qui est pas particulier, mais moi, il m'a intéressé. Donc Deutéronome chapitre 6, et puis on va le prendre au tout début. Donc le premier, c'est des versets assez connus finalement. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des lois et qu'on a tendance à les sauter. Je ne sais pas pour vous, mais la lecture de Deutéronome, Lévitique et tout ça, c'est un peu fastidieux des fois. Et on a tendance à dire, bon, la loi, c'est plus pour nous, on n'est plus attaché à ça. Et en fait, les lois, elles sont encore valables pour nous. Jésus le dit lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et à ce sujet-là, j'ai une remarque qui était fort juste d'Ira. Il me disait, il ne faut pas confondre les rites, les rituels, et la loi en elle-même. Et la loi en elle-même, elle reste là. C'est, disons, on ne peut pas dire ça complètement, mais c'est l'esprit de la loi, c'est le principe. Tu ne tueras point, tu ne feras point de mal. Et les rituels, c'était les ablutions, c'était faire ça de telle et telle manière. Et il y a une différence entre la façon de faire les choses et l'esprit qui était derrière. Et quand Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi, il a accompli tout ça. Et il nous donne la possibilité de plaire à Dieu, de plaire à l'esprit qui était déjà là dans l'Ancien Testament. Jésus, il n'est pas venu pour nous donner la possibilité de refaire des sacrifices, d'avoir des habits spéciaux, d'avoir un temple spécial. Il nous a donné la possibilité de plaire à Dieu et de respecter l'esprit de la loi. Alors les 10 commandements, on voit pas trop comment on peut dire je vais respecter l'esprit de la loi, mais pas vraiment les 10 commandements en eux-mêmes. C'est lié. On sent que les 10 commandements, c'est quelque chose qu'on peut pas bouger. Mais dans tous les rituels, on n'est plus obligé de les mettre en pratique. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, quand il y a le Concile de Jérusalem, les apôtres décident qu'il faut s'en tenir juste à quelques règles, et tout le reste, ben c'est bon, on va pas l'imposer aux païens. Et je lisais hier dans le Nouveau Testament, y a un pharisien ou un sadducéen qui va voir Jésus et qui lui dit « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Jésus lui dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. » Et il cite un des versets qui est un peu plus loin. Et dit « Et le deuxième commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et finalement, c'est là où on voit que Jésus il résume toute la loi, pas au rite, pas à « Tu feras ça et ça de telle manière », mais à ce qui est important, « Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu. » Et ça, ça reste et ça, ça bougera jamais. Ça, c'est encore pour nous. Un autre point qui est important dans la loi, c'est expliqué dans Galates. Dans Galates 3, verset 24, ça dit « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Et dans Romains, on a beaucoup de passages qui parlent de la loi. Dans Romains 3, alors prenez peut-être pas tous les petits passages, on va rester peut-être sur Deutéronome, enfin c'est comme vous voulez, mais... Et donc dans Romains 3, verset 19, ça dit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et dans Romains 5, verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Et c'est ça qui est aussi important dans la loi, la deuxième idée, c'est que c'est par la loi qu'on est reconnu pécheur. S'il n'y avait pas de loi en France, il n'y aurait pas de criminel. Il faut une loi pour mettre clairement que les gens sont hors la loi et sont criminels. Et Dieu a dû mettre la loi pour montrer que nous tous, on est tous pécheurs. Et en ça, on en a encore besoin quand on est chrétien. On a besoin de voir la loi de Dieu et de dire « Mais moi, je suis incapable de respecter ça, je suis pécheur. » Et à partir de ce moment-là, on peut aller devant Dieu et on peut demander pardon et accepter le salut de Jésus. Mais finalement, la loi, c'est presque le point de départ de la vie du chrétien. Pas la loi directement, mais reconnaître que je suis pécheur. Et la loi en ça, c'est un outil, et c'est ce que dit Paul, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est quelqu'un qui nous enseigne et qui nous montre dans quelle voie on doit aller. Donc au verset 3, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. » Et en fait, c'est exactement ce que nous demande Jésus après dans le Nouveau Testament, c'est de mettre en pratique la loi de Dieu, c'est de mettre en pratique l'amour de Dieu. Finalement, c'est ça, la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer nos frères et sœurs, c'est d'aimer tout le monde. Et je pense que c'est on l'a dit d'une certaine manière tout à l'heure, afin que tu sois heureux et que tu multiplies. Et je crois que c'est la loi aussi pour l'évangélisation. C'est une des clés, il faut aimer les gens. Bien sûr, il faut leur annoncer l'évangile, il faut peut-être expliquer certaines choses, mais le point principal, c'est qu'il faut aimer les gens, et c'est ça qui permet que la foi se multiplie et qu'il y a des gens qui viennent à Dieu. Dieu nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Alors, il ne nous l'a pas promis à nous, il l'a promis à Israël, mais je crois que là encore, c'est quelque chose qui s'applique à nous quand on est chrétien. Le Seigneur a promis plein de bonnes choses pour nous. Et si vous réfléchissez, qu'est-ce que vous avez reçu de tout ça? On réfléchit des fois, on se dit, le Seigneur, il me bénit, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné, je sais pas, une maison, une voiture, ou il m'a donné d'avoir un travail. Déjà là, c'est plus très matériel, c'est à la limite. Mais qu'est-ce qu'il vous a donné de manière spirituelle, le Seigneur? Est-ce qu'il vous a donné la paix? Est-ce qu'il vous a donné la patience? Ce qui vous a donné le don d'enseigner, le don d'encourager les gens. Il y a un tas de choses comme ça qu'il veut nous donner. Ça fait partie du pays promis. Et c'est à nous à réfléchir, pas à se bloquer sur les bénédictions matérielles. C'est vrai qu'Israël a été béni matériellement. Et on peut l'être aussi. mais ce n'est pas la bénédiction que le Seigneur a pour nous. Il veut nous bénir spirituellement, il veut nous donner des nouveaux dons, des nouvelles choses pour le servir. Au verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ce verset « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel », c'est un peu le pendant dans l'Ancien Testament de « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans le Nouveau Testament. Ça dit la même chose « Je suis le seul Dieu, je suis l'unique ». C'est pas une idée qui a été inventée par Jésus, c'était déjà dans l'Ancien Testament et il est juste venu accomplir et expliquer finalement tout ce qui était écrit. L'Éternel est le seul Éternel et c'était important pour les Juifs parce qu'ils étaient entourés de pays où il y avait des idoles, où il y avait des dieux dans tous les genres, de tout type. Et c'est encore important pour nous, ça n'a pas changé parce qu'on a des dieux tout autour de nous. Il y a le dieu football qui a eu son moment de gloire il n'y a pas longtemps, un peu moins en France, hein, mais ça, on en a parlé beaucoup. Il y a le dieu de l'argent qui est toujours à la fête aussi. Et il y en a un tas de dieux comme ça qui sont adorés par un tas de gens. Et Dieu nous dit, moi je suis ton unique, il n'y a que moi que tu dois adorer, et tu dois tout apporter à moi, tu ne dois pas te donner aux autres, tu ne dois pas même aller voir ce qui se fait chez les autres dieux. Et je crois que c'est un des gros, ça me travaille souvent en fait, un des gros problèmes de nos églises maintenant, c'est qu'on est trop avec une vision à court terme en fait. On voit les choses de la vie, là, qui sont juste à côté de nous, qu'on peut toucher, les choses de tous les jours. Et ce qui est spirituel, bah, c'est un peu loin, c'est un peu vague, on peut pas le toucher directement. Vous savez, la vie éternelle, c'est loin, sauf si je décède dans pas longtemps. Mais bon, ça reste des idées qu'on a du mal à toucher, finalement. Et c'est tout là le problème, de réussir à faire passer ça d'abord, donner plus d'importance à ça qu'on ne voit pas, plutôt que donner de l'importance à ce qui est solide, à de l'argent, à un travail, à des choses qui vont me toucher, qui vont avoir un impact sur moi tous les jours. Et pourtant, on voit aussi dans le Nouveau Testament, je ne sais plus dans quel verset, que les choses matérielles sont périssables et que les choses éternelles, ou les choses visibles sont périssables et que les choses invisibles sont éternelles. Et qu'il faut s'attacher aux choses invisibles, justement. C'est toute la difficulté de la foi, c'est qu'on marche pas sur un terrain qu'on voit, mais on marche dans le vide, en faisant confiance que le terrain il est sous nos pieds. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Je sais plus qui nous avait dit ça, mais c'est quelque chose qui m'a aussi marqué dans les commandements. Quand on dit tu ne tueras pas, ou tu ne feras pas ceci, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon de se dire, ben, c'est un ordre qu'on me donne et je dois l'appliquer. Tu ne tueras pas, je ne vais pas tuer et je vais observer ça parce que ça plaît à Dieu et parce qu'en retour, Dieu accomplira ce qu'il faut dans ma vie. Il y a une deuxième façon de voir les choses qui est que c'est Dieu qui nous dit, je te donne la possibilité de ne pas tuer, je te donne la possibilité de ne pas voler, je te donne la possibilité d'aimer ton prochain. Tu ne tueras point, c'est je te promets que tu ne tueras point. Si on met je te promets devant, on voit le verset un peu différemment. Et c'est un peu tout le paradoxe de l'évangile, c'est que c'est à nous de faire le pas vers Jésus, et après lui s'occupe de notre vie, il prend tout en charge. Et en même temps, c'est Jésus qui a fait tout d'abord, et nous, il n'y a plus qu'à répondre à ça, et il nous donne la possibilité de tout faire. On peut se tordre la tête pendant longtemps sur ça, hein, se dire c'est Dieu qui fait tout et puis nous finalement on fait que répondre, ou alors c'est nous qui répondons et ça laisse Jésus après agir dans notre vie. Je sais pas comment il faut prendre le problème, hein, c'est comme la poule et l'œuf, on peut se triturer l'esprit longtemps, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup. L'essentiel c'est de faire le pas, dans tous les cas. Au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je pense que c'est une, une réponse claire de la Bible aux gens qui disent que les enfants, faut pas trop les embêter avec tout ce qui est la foi, tout ce qui est la Bible, faut les laisser grandir, et puis quand ils seront grands, ils choisiront. Et clairement, la Bible nous dit, dès qu'ils sont enfants, il faut leur enseigner la Bible, il faut leur montrer ces choses-là. Si on leur dit rien, on leur enseigne l'inverse, en fait, déjà, de base. Si j'enseigne pas tout ce qui est du Seigneur à mon fils, alors je lui enseigne à pas suivre le Seigneur, tout simplement. Ça nous dit de mettre un signe sur nos mains et de mettre un signe entre nos yeux. Les mains, c'est très clairement le symbole de tout ce qu'on fait, tout ce que je fais avec mes mains. Le fait d'avoir un signe sur mes mains, c'est-à-dire que dès que je vais faire quelque chose, les gens vont voir le signe sur ma main et vont savoir que je le fais au nom de Jésus. C'est un engagement pour moi, dans un sens. Si je fais quelque chose avec mes mains, moi aussi je vois le signe sur ma main. Et en voyant le signe, je fais attention parce que je dis « Attention, je suis en train de faire les choses pour Jésus, je ne peux pas faire les choses à la légère. » Si j'ai un signe entre mes yeux, vous le voyez tous. Et si j'arrive à loucher un petit peu, je dois pouvoir le voir s'il est assez visible. Mais moi aussi, je vais le voir et ça veut dire que là où vont mes yeux, je dois faire attention parce que je regarde aussi pour le Seigneur Jésus et je dois regarder comme lui regarde. Et ça aussi, c'est important de regarder comme Jésus a regardé les gens. Et souvent, je m'aperçois que j'ai un esprit qui est très, très critique. Et je vais voir des choses, dire « Ah oh bah lui, il fait ça, ou elle fait ça, dis donc, c'est pas bien, ou ça honore pas le Seigneur, ou je sais pas, quand c'est des non-chrétiens, bon, c'est comme ça. » Et en fait, Jésus voyait pas forcément les choses comme ça, il voyait les gens avec des yeux d'amour. Et quand il voyait quelqu'un faire le mal, il voyait aussi la personne qui le connaissait pas, et qui manquait d'amour. Et il avait envie d'apporter de l'amour pour cette personne. Et nous, souvent, on voit les choses de manière critique, on voit les choses qui vont pas, et on pense pas que la solution, c'est d'aimer les gens. Et si les gens, ils font les choses mal, c'est parce qu'ils connaissent pas Jésus, et ça, c'est pas quelque chose qui doit nous mettre en colère d'abord, c'est quelque chose qui doit nous faire souffrir et nous dire, ils connaissent pas Jésus, et c'est tellement dommage, et j'ai quelque chose à faire aussi. Dans mon papier, j'ai sauté les versets 10 et 12, je ne sais pas pourquoi. Mais l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays, au verset 10, qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On a chanté tout à l'heure « Compte les bienfaits de Dieu ». Et je reviens à mon idée tout à l'heure. Comptez pas juste les bénédictions matérielles, juste les choses qu'il fait dans votre vie, je veux dire, courante. Comptez aussi les bénédictions qu'il vous a données dans votre esprit et dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il a changé en vous? Qu'est-ce qu'il a amélioré ou qu'est-ce qu'il a fait de nouveau en vous depuis que vous êtes donné à lui? Si depuis que je me suis donné au Seigneur, il m'a que donné un travail, une maison et une famille, il manque encore la plus grosse chose. Il y a une transformation qui est en moi qui doit se faire et si ça y est pas, tout le reste a beau y être, il y a quelque chose qui va pas. Il y a tout, j'ai pas le temps de le préparer aujourd'hui. On avait discuté avec les ados du passage du Jourdain et c'est quelque chose qui est encore une fois symbolique. Là, on le voit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays. C'est pour ça que je pense au passage du Jourdain. Et il y a beaucoup de choses où ça reflète notre vie, en fait. On était sans pays, ou en tout cas, on était dans le pays de l'ennemi. On était encore en Égypte, ou chez les Amoréens, ou d'autres peuples, comme ça. On était dans le royaume de l'ennemi. Et le fait de passer le Jourdain, on rentre dans le pays qui est promis, dans le pays du Seigneur. Et c'est juste une image de notre vie à nous. On appartenait au royaume du diable. Parce qu'on peut, de toute façon, on appartient soit au diable, soit au Seigneur, il n'y a pas de limite entre les deux. Et il faut passer le Jourdain, il faut donner sa vie au Seigneur pour entrer dans le pays. Et ce qui est marrant, je vais dire, avec cette image-là, c'est que quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, eh ben, il restait tout à faire. Et on pourrait se dire, c'est bon, je me suis donné au Seigneur, voilà, oui, tout est accompli, la part de Dieu, tout est fait, mais en fait, il y a encore tout un pays à conquérir, tout des presque des nouvelles habitudes, une nouvelle vie à redécouvrir. Et on parle de nouvelle naissance. Si je suis né de nouveau, et ben, il faut que je réapprenne à marcher, il faut que je réapprenne à parler différemment, parce que c'est plus la même vie. Et dans le Jourdain, le peuple d'Israël a laissé des pierres, des monuments aussi, pour se souvenir d'où ils venaient, où est-ce qu'ils sont passés. Et là aussi, c'est important pour nous de régulièrement mettre des pierres à certains endroits, garder des choses qui vont nous permettre de regarder en arrière dans notre vie, de dire « Ah oui, à ce moment-là, il s'est passé ça et je sais que le Seigneur a agi. À ce moment-là, là, j'ai eu ça aussi. » Et c'est terrible des fois de discuter avec des gens et qui nous disent « Ah moi, le Seigneur m'a touché, il y a 15 ans, il a fait ça dans ma vie. » Et depuis 15 ans, il s'est passé quoi ? Alors, bon, en général, on n'ose pas trop le demander aux gens parce que c'est gênant. Mais il y a dû se passer régulièrement des choses et régulièrement, on a dû mettre des autels, on a dû mettre des pierres, quelque chose qui nous dit « Là, il s'est passé quelque chose. » Et c'est vrai que moi, il y a plusieurs points dans ma vie où je sais qu'à ce moment-là, le Seigneur s'est forcé, il a parlé. Et il y a des choses où c'est... Bah, mon travail qui m'a été donné, ça c'est un point qui restera gravé. Là, le Seigneur, il a agi. Il y a plein d'autres points où je ne l'ai pas noté, mais le Seigneur l'a fait quand même. Mais c'est bon de se souvenir et de mettre quelque chose de visible pour dire « Là, le Seigneur agit. » Sinon, le malin, quand viendra les difficultés, il vous dira « Ben, il a fait quoi dans ta vie ?»« Oh, ben, oui, il a fait des choses, quoi. Je me souviens plus bien, mais il a fait des choses. » Alors que si vous pouvez lui dire « Il a fait ça, ça, ça et ça, parce que je l'ai noté, parce que j'ai mis une pierre, alors vous avez un argument pour dire « Si, si, le Seigneur, il m'abandonne pas. Il a toujours fait des choses dans ma vie, il continuera. Alors tais-toi. » Deutéronome 6, verset 13, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » Et c'est quelque chose, encore une fois, comme la loi, je pense que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de clé pour notre vie. Et on a tendance à le laisser dans l'Ancien Testament, à dire « Bon, c'était l'Ancien Testament, il fallait avoir peur de Dieu et tout ça. » Mais non, il fallait pas avoir peur de Dieu, il fallait le craindre. Et dans le Nouveau Testament, il faut encore craindre Dieu. C'est pas parce qu'on peut dire que Jésus, il est notre ami, parce qu'on peut dire « Abba, Père », parce qu'on peut dire « Papa », qu'on doit oublier toute crainte à son égard et qu'on doit agir comme si c'était notre copain, c'était notre pote. S'il y a une différence entre... Il y a la crainte à garder quand même, en fait. Et dans le Nouveau Testament, on voit encore la crainte de Dieu. C'est pas juste quelque chose qui était pour l'Ancien Testament et qu'on peut oublier, tout simplement. Dans Luc 7, on voit que ça parle de Jésus. « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » On le voit aussi dans l'affaire avec Ananias qui ment aux apôtres en disant « J'ai vendu ça pour tel prix. » Et en fait, il a gardé une partie du prix de ce qu'il a vendu. Et Ananias entend le jugement de Paul à son égard. De Pierre à son égard. Oui. Et ça dit dans Actes 5, verset 5. « Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Ça calme. Et après, dans ce qui se passait dans la vie de Paul, pendant qu'il voyageait, on lit aussi « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Encore un petit verset juste pour vous convaincre que c'est bien dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux 12, verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance... en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Il faut garder la crainte de Dieu dans nos églises. Le jour où on perdra la crainte de Dieu, on perd tout avec. Il reste le Dieu qui a créé tout l'univers. Il reste le Dieu qui est capable de tout terminer d'un seul claquement de doigts. C'est notre ami, mais il reste aussi ça. Et c'est différent de la peur. J'ai pas peur de Dieu, parce que je sais très bien comment il agit, Et le connaissant, je sais qu'il fait pas les choses n'importe comment. Mais je le crains, comme je peux craindre mes parents, comme je peux craindre peut-être un supérieur dans le travail. Et c'est pas la notion de peur qui est accrochée au terme crainte, c'est plutôt la notion de respect, en fait. Et si on craint quelqu'un et qu'on l'honore, alors c'est là où on est plus apte à le servir. Si on manque de respect à quelqu'un, je pense que d'entrée de jeu, on n'a pas trop envie de faire ce qu'il nous dit, on fait à notre guise et voilà. Et le fait de craindre Dieu, de garder en tête ce qu'il est, ça nous permet de le servir correctement et d'obéir tout simplement. Pourquoi on devrait craindre Dieu? Parce qu'il a notre vie entre ses mains. Et plus directement pour nous, parce qu'il est saint. Il supporte pas le péché, il peut pas être en contact du péché. Et il faut avoir peur de ça. C'est pas la peur, c'est la crainte. Mais il faut vraiment faire attention qu'on n'ait pas de péché sur nous, parce que ça nous empêche d'aller auprès de Dieu, et Dieu ne supporte pas le péché. Et on le voit dans l'Ancien Testament, mais ça reste aussi après, que Dieu peut se mettre en colère et peut décider de supprimer le péché. Et c'est pour ça qu'on doit avoir de la crainte. Dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, ça disait aussi que la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'est quelque chose qui va de pair. C'est, si je crains Dieu, je le glorifie, je lui rends gloire pour ce qu'il est. Si je le crains pas, alors je le dévalue d'une certaine façon. Et c'est quand l'Église a reçu la crainte de Dieu, dans le début des Actes, où l'Église a commencé à grandir. Et là aussi, c'est associé, quand on lit « La crainte s'empara de tous et l'Église se fortifiait et grandissait ». On lit ça dans le début des Actes, souvent. Voilà, dans Actes 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et dans 1 Pierre 1, verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Je pense que je vais terminer avec ça, juste garder en tête que Dieu est un Dieu jaloux, qui vous veut pour lui seul et qui ne veut pas vous partager, parce que le seul avec qui il y a une notion de... avec qui on pourrait partager, même si c'est pas possible en vrai, mais c'est le diable. On a dit soit on appartient à Jésus, soit on appartient au diable. Et si Jésus veut vous prendre vous complètement, il ne veut pas vous laisser un seul morceau au diable, parce que le diable, il se contentera pas d'un morceau. Il prendra tout. Je pense que c'est quelque chose qui est réservé pour nous. C'est pour ceux qui sont au Seigneur, le Seigneur est encore plus sévère, en fait. Là aussi, ça rejoint l'idée de crainte du Seigneur. On a les commandements du Seigneur, on sait exactement ce qu'il veut, et si on les néglige, on est d'autant plus coupable que ceux qui les connaissent pas. Et c'est à nous à faire attention. Il y a cette notion de crainte, il y a des notions d'humilité, il y a beaucoup de clés comme ça qu'il faut récupérer, acquérir dans nos vies, parce que c'est comme ça qu'on grandira avec le Seigneur et c'est comme ça qu'il pourra se servir de nous pour faire son œuvre. Il y en a, en fait, toutes ces clés qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, elles sont aussi dans l'Ancien Testament. C'était mon but aujourd'hui, mais on n'a fait qu'un seul chapitre, mais en réalité, on voit beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans l'Ancien Testament et c'est des versets qu'on retrouve dans le Nouveau. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées. Je vous encourage à le lire vous-même, à étudier. Ça peut être des paragraphes comme ça qui sont pas très de base. Ça donne pas envie d'étudier parce que c'est juste les Deutéronomes, Lévitique. Et en fait, il y a des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de ce que tu m'as montré, que c'était une seule parole et qu'il n'y avait pas de différence à faire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci Seigneur de ce que tout l'Ancien sert à annoncer le Nouveau, tout l'Ancien sert à annoncer l'Évangile déjà avant l'heure. Et Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici, qu'on puisse étudier ta parole, qu'on soit capable de répondre à ceux qui nous interrogent, à ceux qui viennent peut-être avec d'autres doctrines. Seigneur, qu'on soit au point sur ta parole, et que, Seigneur, le jour où on nous empêchera de la lire, où on ne pourra plus l'utiliser, Seigneur, qu'on puisse l'avoir en tête et qu'on puisse continuer à rester fidèle à toi jusqu'au bout, Seigneur. Amen.